Bienvenue sur ce nouvel épisode de Balance ton héroïne. Aujourd'hui, je reçois Charlotte Courtois, qui a fondé l'association Constellatio, dont le motto est d'éduquer à la paix à travers le dialogue interculturel.
Je suis Géraldine Jakowski et j'ai créé ce podcast pour mettre en lumière les héroïnes des temps modernes, ces modèles de notre temps dont nous avons tant besoin. Qu'elles agissent dans différents domaines au travers leur association, leur projet entrepreneurial, leur ONG, sur des sujets sociaux, sociétaux, environnementaux et même de droits humains ou droits des femmes. Alors écoutez-les, c'est très inspirant. Et puis, dans ce podcast, il y aura aussi des interviews d'hommes qui viennent nous parler de leur héroïne de vie. À tout de suite.
Charlotte, bonjour et bienvenue sur ce podcast Balance ton héroïne.
Bonjour, merci.
Donc nous, c'est une connexion LinkedIn, c'est comme ça que je vais le dire. Et moi, j'ai eu la bonne surprise de découvrir Constellatio, que vous avez créé et dont vous allez nous parler. Mais en premier lieu, ce que je vous propose, c'est de vous présenter, Charlotte.
Oui, bah alors, donc voilà. Donc, moi, c'est Charlotte Courtois, je suis fondatrice et directrice de l'association Constellatio. Je suis une grande passionnée de diversité culturelle, de voyage, de découverte des cultures, de comment les gens vivent un peu partout dans le monde, des différences qu'il peut y avoir, mais aussi des points communs. J'ai eu la chance d'habiter à l'étranger quand j'étais adolescente. Et ma passion pour tout ça vient de là et j'ai eu envie de la partager, et notamment de la partager avec les plus jeunes, parce que je pense que c'est important de découvrir la différence pour en avoir un peu moins peur et pour faire passer la curiosité sur le devant de la scène plutôt que la méfiance. Donc, j'ai une formation en commerce international au départ et suivie par un master recherche en sociologie et anthropologie. Donc, je dirais que ma devise, c'est un petit peu d'apprendre en permanence, d'apprendre et de faire apprendre, du coup.
Apprendre et faire apprendre. Bon. Et donc, quelle est la genèse de Constellatio et qu'est-ce que Constellatio ?
La genèse, c'est un peu ce dont je parlais du fait d'avoir habité à l'étranger quand j'étais adolescente. Ce que j'ai voulu faire par la suite, c'était quand il a fallu que je choisisse en fait ce que j'allais faire de ma vie. J'avais 16 ans quand j'ai passé mon bac et il fallait choisir ce que j'allais faire de ma vie. Et tout ce que je savais, c'est que je voulais travailler dans des milieux multiculturels et voyager, mais au moins travailler avec des gens d'origine différente. D'où mon choix d'une école de commerce international. Et puis, mes cours ne m'ont pas passionnée. Mais par contre, on avait des cours de management interculturel. Et ça, je trouvais ça génial de découvrir l'impact que la culture pouvait avoir sur le quotidien, mais aussi sur le milieu des affaires, etc. Et donc, à ce moment-là, je m'étais dit, c'est chouette, mais ce n'est pas quand on a 20 ans, 22 ans que soudainement, on va s'ouvrir au monde. Et ça serait bien de faire quelque chose dès l'enfance, que ce soit vraiment imprégné dans nos façons de penser et notre rapport à l'autre. Donc, je m'étais dit, je travaillerai pendant 10 ans et puis je mettrai de l'argent de côté, je prendrai une année sabbatique et je ferai un projet là-dessus avec les enfants. Et puis, ça s'est fait un petit peu plus vite que prévu. Et puis, de fil en aiguille, j'ai créé Constellatio quand j'avais 24 ans parce que je partais faire un tour du monde. Alors, je reviendrai plus en détail là-dessus ensuite parce que c'était autour d'un projet pédagogique. Et donc, j'ai créé l'association Constellatio en 2011 dans l'objectif, effectivement, de sensibiliser au dialogue entre les cultures. Et puis, sous forme associative, pour montrer que même si à l'époque, j'étais toute seule, ou quasiment, parce qu'évidemment, on ne crée pas une association seule, légalement, sinon ce n'est pas une association, et puis même logiquement. Mais que l'idée, c'était que ce projet-là puisse fédérer et perdurer. Donc, voilà vraiment l'origine de Constellatio. Constellatio en tant que telle, donc effectivement, c'est une association d'intérêt général à but non lucratif, qui est accrédité par l'UNESCO depuis cet été, qui mène des projets autour des questions de la diversité culturelle un peu partout dans le monde. Puis 2011, on est intervenu auprès d'un peu plus de 4000 enfants dans 12 pays différents.
Alors moi, Charlotte, j'aimerais savoir d'où vient le mot Constellatio.
Alors Constellatio, alors normalement, je crois que ça doit se dire Constellatio en espéranto. Donc pour ceux qui ne connaissent pas l'espéranto, c'est une langue qui a été créée à l'origine pour pouvoir favoriser le dialogue entre des personnes qui ont des langues différentes. Constellatio, donc c'est constellation en espéranto, et c'est le côté un petit peu poétique de l'association qui dit que les cultures sont un peu comme des étoiles, qu'elles sont plus ou moins éloignées les unes des autres, qu'elles sont toutes fascinantes, qu'elles ont chacune leur histoire, que plus on en est proche également, moins on voit les autres, plus elles nous éblouissent. Mais qu'en les reliant, on leur trouve un sens, les constellations. Voilà l'origine du nom de l'association.
Mais c'est très beau, c'est touchant. Bravo.
Merci.
Bravo. Vous m'aviez parlé aussi du motto, ou plutôt vraiment de la mission de Constellatio ou Constellatio. Moi, j'avais entendu développer la curiosité, la tolérance et développer le partage des identités locales. C'est quoi aujourd'hui, en septembre 2022, Constellatio ? Parce que je crois que ça a beaucoup évolué.
Donc effectivement, Constellatio a énormément évolué depuis sa création. Au début, j'étais un peu toute seule. Et maintenant, alors sur l'opérationnel, on est deux personnes. J'ai Asilis qui travaille avec moi sur la communication et l'événementiel de l'association. Mais on a également évidemment un conseil d'administration qui est composé de 7 personnes. On a une quinzaine de bénévoles qui sont très actifs sur l'année, mais selon les événements, les besoins et voilà, les temps qu'on peut créer autour de la mission d'association. Cette année, par exemple, on a eu jusqu'à 90 bénévoles en tout. Et puis, on a une chouette marraine également, en la personne de Bérénice Béjot.
C'est pour moi un très beau projet. Aujourd'hui, surtout, au jour où on construit des murs pour empêcher les gens de rentrer dans les pays, c'est un projet qui, au contraire, ouvre les portes, ouvre les fenêtres, casse les murs, fait envoler les toits et vraiment parle de d'humilité, d'indulgence, de respect, de curiosité, d'ouverture. Et c'est pour ça que j'étais contente de participer à mon petit niveau dans l'association.
Quand on a une marraine d'association, à quel moment la marraine va intervenir ? Comment ça se passe pour Bérénice dans son rôle et dans son accompagnement de l'association ?
Alors, c'est très variable et c'est un petit peu ce qu'on s'est dit d'ailleurs quand je lui ai proposé de devenir la marraine de l'association et qu'elle a accepté, c'est que qu'on allait construire ça ensemble en fait. Alors, c'est vrai que nous, on mène beaucoup d'actions à l'étranger et on n'a pas les moyens d'une grosse ONG pour la faire venir systématiquement, etc. Donc, c'est beaucoup de soutien en termes de visibilité. Donc, elle partage et elle parle de ce qu'on fait. Elle a participé sur un de nos projets en étant la narratrice d'un livre CD qu'on a publié. Elle a été présente également sur un événement qu'on a organisé dans ce cadre-là également à l'Institut du Monde Arabe. Là, on a eu un événement cet été avec une vingtaine de bénévoles. Elle nous a envoyé une petite vidéo juste pour nos bénévoles, pour les remercier, les encourager. Du coup, ça crée une émulation, ça motive. Enfin voilà, il y a plein de petites choses qui, mises bout à bout, change un peu la donne. Et clairement, on ne va pas se mentir, en termes de crédibilité, ça change beaucoup de choses également, puisque quand on est une petite association, parce qu'on a beau avoir de beaux projets, de grands projets, de belles ambitions, on reste une petite association par rapport à des grosses structures qui peuvent exister. Quand on a des marchés, des partenaires, des financeurs, etc., et qu'on est soutenu par quelqu'un comme Bérénice Béjot, ça a tout de suite une portée un petit peu différente.
Est-ce que vous êtes allé à la recherche de fonds ? Et justement, quand vous dites, lorsqu'on a une marraine qui a une notoriété publique, ça assoit la position de l'association. Est-ce que ça vous a aidé dans vos recherches de financement ?
Oui, alors pas toujours de façon directe et évidente de « ah oui, je donne parce que ». On a tendance à dire « ça ouvre des portes », mais non, clairement, ça ouvre des oreilles en fait. C'est-à-dire que tout de suite… On nous entend un petit peu plus. Après, sur, je sais pas, on va dire le commun des mortels, c'est-à-dire quand on fait un crowdfunding, ce sont plein de donateurs particuliers, de personnes en fait qui vont donner. La plupart, ils donnent parce que l'action de l'association leur parle, pas parce que il y a une marraine connue derrière. Mais ça attire l'attention, ça attise la curiosité, ça apporte un plus indéniable.
Moi, ce que j'ai envie de découvrir, c'est vos réalisations, parce qu'il y a eu deux projets importants que l'association a réalisés. Est-ce que vous pouvez m'en parler, nous en parler ?
Oui, bien sûr. Alors, Donc, le tout premier projet de l'association, la raison pour laquelle je l'ai créé en 2011, c'est un projet qui s'appelle Polaris. Donc, en fait, je suis partie pendant 15 mois toute seule faire un tour du monde. Et j'intervenais dans des écoles, dans des ONG, dans des centres communautaires autour du sujet de la narration. Donc, en fait, je faisais écrire aux enfants des histoires qui racontaient leur culture et leur tradition sous forme de journée type. Donc, ils racontaient un mariage, une journée à l'école, un anniversaire, etc. Comment ça se passait dans leur pays. Alors, jamais dans un objectif d'exhaustivité, juste donner des exemples sur comment ça pouvait se passer. Et ces histoires, ils les illustraient et elles étaient imprimées en petits livrets, traduites en français, en anglais et espagnol et échangées entre les quelques 200 enfants participants dans les 7 pays où je suis allée. Donc ça, c'était le tout premier projet de l'association.
D'accord. Est-ce que c'est votre idée, bébé, la création de ce livret ?
Oui, tout à fait. C'est vraiment... Voilà, ça a été la raison de la création de l'association, vraiment. C'est-à-dire que j'avais envie de faire ce projet-là, de mener ce projet-là auprès des enfants un peu partout dans le monde. Et je me suis dit que la meilleure forme, le meilleur statut à donner à tout ça, c'était un format associatif pour montrer que, bah, voilà, que c'était déjà but non lucratif, mais aussi que bah, l'idée, c'était de réunir des gens autour de ces valeurs-là et de les partager le plus largement possible.
C'était quoi votre sensation ou l'émotion qui vous traversait lors des échanges de livrets ?
Alors chez moi, les émotions, il y en a beaucoup, beaucoup et très, très fortes. Donc beaucoup, beaucoup de, comment dire ça ? C'est touchant en fait. C'est touchant de voir les étoiles dans les yeux des enfants, à la fois quand ils découvrent comment ça se passe ailleurs et qu'ils se rendent compte qu'en fait, il y a d'autres façons de faire les choses. Mais aussi la fierté qu'ils ont de partager leur propre patrimoine, leurs propres identités culturelles, leurs propres coutumes. Ils sont tellement, ils sont tellement fiers quand c'est comme ça que c'est vraiment, c'est émouvant. Les émotions, c'est l'émotion. J'étais émue. Voilà.
Mais oui, je n'en doute pas.
C'est extraordinaire.
Et je suis certaine que certains ont conservé leur livret et ont encore précieusement dans une boîte à trésors leur livret en fait.
Mais absolument, et oui, tout à fait, parce qu'en fait, il y a un mois, j'ai reçu sur Instagram un message d'un élève que j'ai eu du coup pendant le tour du monde en 2012 en Tunisie, qui m'a envoyé un message en me disant je vous ai retrouvé, j'ai ressorti les livrets qu'on avait fait ensemble avec Constellatio et j'ai relu les histoires et j'ai gardé ça précieusement et c'est un ancien enfant du coup parce que du coup maintenant il est majeur quoi, il a 18-20 ans et voilà, donc effectivement apparemment certains au moins les ont gardés et 10 ans plus tard il débarque et il m'a dit coucou, je me souviens de vous.
Ouais, c'est très beau de semer en fait, vous semez des liens culturels au travers le monde, c'est une belle mission. Parlez-moi du projet Lyra.
Alors, le projet Lyra, c'est un projet qui a été développé à partir de 2015 autour cette fois-ci du thème des musiques traditionnelles. Donc, c'est un projet qui a réuni une dizaine de personnes en direct, donc 6 musiciens traditionnels, 2 Bretons, 2 Tunisiens et 2 Indiens qui jouent ensemble. Et à ce groupe de musiciens s'ajoute une illustratrice, un réalisateur, un ingénieur son et moi en tant qu'auteur et animatrice et coordinatrice du projet. Donc, avec toute cette belle équipe multiculturelle d'artistes, nous sommes partis à la rencontre de 1300 enfants dans les 3 pays des musiciens, donc en France, en Tunisie et en Inde, pour leur montrer que quand on s'écoute un petit peu les uns les autres, on arrive à faire des jolies choses ensemble. On est allé dans des écoles privées, publiques, des orphelinats, des hôpitaux pour enfants, là où il y avait des enfants partout, peu importe. Voilà, peu importe leur niveau social, leur difficulté de vie ou leur facilité de vie. Enfin, voilà. Et ça a été une aventure humaine assez extraordinaire. Et ce projet a mené à la publication d'un livre CD qui s'appelle « Le fabuleux voyage d'Arwen » et à l'enregistrement d'un album, donc vraiment purement musical, qui s'appelle « Lyra » du nom du projet, avec des compositions indo-tuniso-bretonnes. Et puis, on a fait quelques concerts dans chacun des pays.
Bravo, bravo. Alors, vous m'aviez dit que vous étiez parrainée par le ministère de la Culture à l'époque.
Tout à fait. On était parrainé par le ministère de la Culture sur ce projet. Et puis, on a collaboré également avec l'Institut du Monde Arabe pour l'événement de sortie du livre, du CD, et puis la restitution, en fait, de tout ce qu'on avait fait.
D'accord. Donc, en fait, c'est le CD qui s'appelle « Le fabuleux voyage d'Arwen ».
Alors, ça, c'est le livre. Donc, il y a le livre papier avec un CD, avec l'histoire qui est donc effectivement racontée par notre marraine, Bérénice Bejo, mise en musique par les musiciens de l'IRA, et avec toute une trame sonore, parce que donc, effectivement, on est vraiment parti dans les trois pays tous ensemble, et notre ingénieur son a enregistré, donc Pierre Binard, il a enregistré des sons dans les rues, dans les marchés, l'appel à la prière en Tunisie, le charmeur de serpents en Inde, et il a retissé toute une trame sonore à l'histoire, en fait, sur la base de ces enregistrements. Et donc, en parallèle de ce livre CD, on a également sorti un album purement musical qui, lui, s'appelle Lyra, du nom du projet et du groupe.
D'accord. Alors, ce que je ferai, Charlotte, c'est que je mettrai le lien sur la vidéo qui présente le projet. Comme ça, tout le monde pourra découvrir donc le résumé du projet. Et puis bah, vous me direz si vous souhaitez que je mette des liens pour pouvoir justement soit trouver le livre ou le CD pour pouvoir se laisser emporter et voyager au travers vos créations. Avec grand plaisir.
Super. Et en l'occurrence, alors le livre, malheureusement, n'est plus disponible en librairie puisque notre maison d'édition a dû fermer ses portes en 2020. Donc, on cherche un nouvel éditeur. Par contre, l'enregistrement sonore, l'histoire est toujours disponible sur les plateformes de streaming. Il ne faut pas hésiter à aller écouter tout ça et partir en voyage par procuration.
De voir des gens de cultures différentes jouer ensemble, on commençait à y être habitué, mais là c'était une démonstration qui avait beaucoup de brio, de la chaleur surtout.
Il y a quelque chose de très touchant au fond du corps. Vous ne faites pas de la musique, vous faites de la magie. Vous faites de la magie, croyez-moi.
Donc là on parlait, vous nous avez présenté les projets qu'il y a eu pré-confinement. Et ensuite en mars 2020, tout s'est gelé. Qu'est-ce qui s'est passé pour Constellation à ce moment-là?
Eh bien, pas grand-chose, concrètement. C'est-à-dire que ben, nous, le cœur de notre métier, c'est de voyager, d'intervenir dans les écoles, en fait. Donc, forcément, tout a été un petit peu bloqué. Par contre, autant on a été bloqué physiquement, géographiquement, dans nos actions, autant nos petites têtes n'ont pas été bloquées. Et ça nous a donné le luxe de la réflexion, le luxe du temps de faire un pas en arrière, d'analyser, de réfléchir à comment on fonctionnait, ce qu'on avait envie de faire, où on avait envie d'aller ensemble en tant que communauté, puisqu'on est quand même toute une communauté. Et donc là, ça a été transitoire. Et effectivement, là, on sent déjà le changement par rapport à l'avant-Covid et le pendant-Covid aussi, où y a beaucoup de dynamisme. On essaye également de développer notre impact quantitatif, parce que c'est vrai que nous, on intervient en direct dans les écoles. Donc, il y a forcément besoin que notre équipe soit là pour mener des projets. Donc là, on essaye de développer des projets satellites à nos grands projets pour
D'accord.
que bah, tout ça vive un petit peu tout seul et qu'on puisse fédérer un maximum de personnes et que les gens soient un peu aussi autonomes dans leur découverte de la diversité culturelle.
D'accord. Donc, ce que je comprends, c'est que Constellation, il y a des grands projets, des projets phares. Vous nous en avez présenté deux et là, on va parler de celui qui est d'actualité et de celui qui est en train de se développer. Et puis, il y a des projets satellites qui mobilisent aussi les bénévoles, donc qui maintient une dynamique au sein de l'association. Est-ce que vous pouvez me citer un exemple de projet satellite?
Oui, alors là, par exemple, on est en train de développer un jeu de société avec un ludopédagogue. Donc, au sein de l'association, on a un comité pédagogique avec des enseignants, avec d'anciens experts pédagogie, en ingénierie pédagogique, avec des animateurs, etc. Et donc, tout ce petit groupe-là, avec nous et avec notre partenaire Damien Chevalier, qui est ludopédagogue, nous sommes en train de construire un jeu de société qui permettra, principalement aux enfants, mais pas uniquement, de découvrir la diversité culturelle dans le monde. Et pour ça, on va aller piocher des informations, on va impliquer des écoles de plusieurs pays pour collecter les informations. Parce qu'au sein de Constellation, on ne vient jamais raconter la culture des autres. On amène des questions pour que chacun puisse parler de sa propre culture. Donc voilà, un des exemples des projets qu'on peut mener en parallèle de nos grands projets.
Ça a l'air passionnant, mais vraiment. Dites-nous, Charlotte, quand il sera sorti ce jeu, Très sincèrement, j'ai des neveux et nièces et je me ferai un plaisir de leur offrir, surtout qu'ils ont une double culture. Ils ont la culture française et la culture marocaine, donc ce sera un plaisir de leur offrir, vraiment.
Merveilleux.
Et donc alors, quelle est votre actualité? Quel est ce fabuleux projet qu'est Ursino?
Alors, Ursino, c'est un projet qui aborde les questions de la diversité culturelle sous l'angle culinaire, cette fois. Donc, par le passé, on a montré, notamment avec le projet Lyra, qu'on pouvait mettre en dialogue des cultures, dans le cas de Lyra, grâce à la musique. Sur la cuisine, ça faisait longtemps que j'avais envie de parler de cuisine, mais j'arrivais pas à trouver le bon angle parce qu'en fait, la fusion en cuisine entre les différentes traditions culinaires, c'est quelque chose qui existe déjà, qui est déjà fait et très bien fait par plein de structures. Donc, on n'avait pas envie de refaire ce qui était déjà fait. Donc, on a fait les choses en sens inverse. C'est-à-dire qu'avec Ursino, ce qu'on vient montrer, c'est que, en fait, nos cultures, elles ont toujours été le résultat de rencontres entre les peuples. Je donne comme exemple typique, nous, on est basé en Bretagne. Le plat emblématique de la Bretagne, c'est la galette de blé noir, la galette complète, par exemple, ou la galette saucisse sur Rennes. La galette, elle est faite avec du sarrasin qui vient d'Asie du Nord-Est et qui est passé par la Russie et le nord de l'Europe avant d'arriver chez nous, par exemple.
Par exemple, ça, c'est énorme.
Voilà. Le hachis parmentier, qui est quand même bien français, la pomme de terre, on ne l'avait pas avant la découverte de l'Amérique. La harissa tunisienne, elle est faite avec du piment qui vient également d'Amérique. Et en fait, tout ça, ça fait partie de notre quotidien. Nos cultures sont diverses par nature, mais on prend rarement le temps de se poser et d'observer ça parce que quand on regarde, en fait, c'est une évidence finalement. Donc voilà, donc le cœur du projet Ursino, c'est vraiment ça. Et donc, on travaille avec des préadolescents à qui on fait mener un travail de collectage de recettes traditionnelles dans leur famille et dans leur communauté. Et sur cette base-là, ils mènent des recherches historiques pour découvrir l'origine des plats et des ingrédients. Et ils viennent raconter tout ça en vidéo pour le partager au sein de leur communauté, mais également avec les élèves qui participent dans les autres pays tout autour du monde.
Ok, donc en fait, la façon dont vous développez le projet, ce projet, c'est au travers des vidéos. Parce que justement, j'étais en train de me dire, mais tiens, comment fait-elle ou comment font-ils pour communiquer, pour se réunir? Est-ce que c'est au travers de visioconférences? Et comment justement je transmets? Et donc là, c'est au travers de la vidéo.
C'est ça, tout à fait. En fait, on fait de la mise en lien indirect, on va dire. Alors, on aimerait bien que tous les élèves puissent se rencontrer, etc. Mais c'est administrativement, logistiquement et financièrement très, très lourd. Même si ça nous est déjà arrivé. On a déjà fait rencontrer des élèves de Tunisie et de Bretagne. Mais donc, l'idée du projet, c'est vraiment d'avoir des élèves qui sont à peu près 13 ans, donc ils peuvent s'identifier les uns aux autres, et se rendre compte que ils ont participé au même projet, ils ont fait les mêmes choses et eux, ce qu'ils ont découvert, c'est ça. Et en parallèle de ces vidéos qu'on échange entre les élèves, on encourage un maximum la mise en lien par des correspondances scolaires, etc., même si on n'a pas envie non plus de les imposer aux enseignants parce qu'on sait que c'est potentiellement assez lourd en termes de charge de travail. Mais généralement, quand on part dans un pays, là, on était au Liban au mois de mai, nos élèves bretons, ils n'ont pas arrêté de nous envoyer des petits messages sur les réseaux sociaux pour dire « Alors, quand est-ce que vous y allez ? Alors, qu'est-ce que vous découvrez ?» Et puis, ils étaient super contents de nous voir au retour et qu'on puisse leur montrer ce qui avait été fait.
D'accord, donc là, il y a vraiment une dynamique qui est créée au sein de la communauté puisqu'on a des préados qui sont en attente. Et comment vous faites intervenir vos grands chefs cuisiniers et qui sont-ils?
C'est ça, effectivement, on travaille avec des chefs cuisiniers et avec également des historiens de l'alimentation. Nous, chez Constellation, on fonctionne beaucoup comme ça, c'est-à-dire que j'ai tendance à me lancer dans des projets dont je ne suis pas experte, en fait, parce que encore une fois, on peut apprendre en permanence. Par contre, pour apprendre, il faut aussi savoir s'entourer de personnes qui, elles, sont expertes et qui viennent apporter justement leur connaissance sur tout ça. Donc, dans le cadre d'Ursino, les chefs cuisiniers avec lesquels on collabore, qui sont des chefs du pays des élèves auprès desquels on intervient, viennent à la rencontre des élèves, en fait. Ils viennent rencontrer les élèves, ils leur parlent de leur parcours. Ils ont un peu carte blanche. Donc, on a un chef qui a déjà raconté, il parlait de pêche et d'agriculture responsable. On a un autre chef qui a raconté que c'était un véritable cancre quand il était à l'école et que les profs donnaient pas cher de sa peau. Et puis finalement, en fait, il a voyagé de par le monde grâce à son métier qu'il adore. Enfin, il y a plein de sujets qui sont abordés. L'idée, c'est de montrer aux élèves que la réalité, en fait, du travail de chef, tout simplement, que c'est pas juste ce qu'on voit à la télé dans Top Chef, mais qu'il y a toute une farandole de parcours de vie qui peuvent mener à ce travail-là.
Par rapport à ce projet, comment vous vous faites accompagner en termes de subventions, en termes de financement? Qu'est-ce qui se passe à ce moment-là sur les gros projets Constellatio?
Alors effectivement, c'est une question centrale puisqu'on propose ces projets à tout type de structure gratuitement, indépendamment de leurs moyens, ce qui nous permet d'intervenir auprès de tout type d'élèves en fait. On est très diversifié sur nos sources de financement, ce qui nous permet aussi d'avoir un peu de stabilité finalement. On ne dépend pas d'un seul ou de deux financeurs, on a des subventions, on a comme on disait tout à l'heure du crowdfunding, donc beaucoup de donateurs particuliers. On a des dons d'entreprises également et puis on organise des événements plus ponctuels pour lever des fonds. Alors, on a collaboré avec une école de commerce, par exemple, dont les étudiants ont collecté des fonds avec des bracelets connectés. Et là, on lance une course et une marche solidaire pour pouvoir inviter toute notre communauté, puis les gens qui ne nous connaissent pas encore, à participer à la vie de l'association.
Et ça, c'est génial, puisque vous avez créé un dossard par rapport à cette opération, un dossard qu'on va pouvoir retrouver en visuel lorsque nous communiquerons autour de cette interview, je l'espère.
Bien sûr.
Alors, il y a plein de choses autour de l'événement Ursino, parce que vous m'avez dit que vous aviez le soutien du ministère de la Culture et du ministère des Affaires étrangères.
Tout à fait.
Comment ça se formalise, le soutien des ministères?
Alors, je pense qu'il doit y avoir plusieurs formes de soutien. Dans notre cas, c'est quelque chose de très, on va dire que c'est un peu tampon, dans le sens où c'est, voilà, on a envoyé des documents pour expliquer ce qu'on faisait, pour expliquer les projets qu'on menait quand on était sur l'IRA et maintenant sur Ursino, au ministre ou à la ministre de la Culture ou des Affaires étrangères, en fonction de qui est en poste. Et puis, en demandant, en fait, le parrainage, donc, le haut patronage voilà, du ministère, qui est une forme de reconnaissance du sérieux de l'opération et du fait que bah, ça leur semble important. Donc après, sur la pratique, on n'a pas, voilà, y a peu de concrétisation, il n'y a pas de financement, il n'y a pas. Mais on a le cachet des ministères qui nous dit attention, ce projet-là, voilà, il s'attaque à quelque chose d'important et qu'on valide.
OK. Et vous êtes accrédité par l'UNESCO, donc ça, c'est tout récent, en fait.
Mais oui, c'est notre nouvelle de l'année.
C'est génial, bravo, bravo. Alors, c'est l'association qui est accréditée ou c'est Charlotte Courtois? Comment ça se passe par rapport à l'UNESCO?
Alors, c'est l'association. Donc là, en fait, pour être exact, on est une ONG accréditée pour tenir des fonctions consultatives auprès du comité intergouvernemental de la Convention de 2003. Donc, en fait, il y a un comité qui réunit plusieurs pays qui sont signataires de la Convention de 2003 de sauvegarde du patrimoine immatériel. Donc, ce comité s'adresse à nous pour avoir notre expertise en fait, sur les dossiers qu'il traite.
Moi, ce qui va se passer, Charlotte, c'est que je vais mettre tous les liens sur le site de l'association et sur la chaîne YouTube dans les ressources de l'épisode. Mais aujourd'hui, si vous aviez une demande à faire pour soutenir Constellatio, laquelle serait-elle?
Au-delà d'une demande, j'ai une invitation. Je propose à tout un chacun de participer à la course et à la marche solidaire qu'on organise. Donc, ça court sur tout le mois de... Ou ça marche, du coup. Sur tout le mois d'octobre, on peut choisir de marcher ou de courir 5 ou 10 km et c'est connecté. Donc, en fait, c'est où vous voulez, quand vous voulez, de chez vous, en groupe, avec des amis, tout seul, peu importe. Il faut s'inscrire sur le site de l'association pour qu'on vous envoie un petit dossard qui indique que, effectivement, vous courez, vous marchez pour éduquer les enfants à la paix avec Constellatio. Et l'intégralité des montants collectés permettra de soutenir les actions de l'association.
Éduquer les enfants à la paix, c'est bien ça le motto de l'association, éduquer nos enfants à la paix grâce à la diversité culturelle. Très sincèrement, Charlotte, vous m'avez fait voyager et j'ai très envie de contribuer à accompagner ou à aider l'association à développer de nouveaux projets. Merci beaucoup pour cette interview. De toute façon, tous nos auditeurs auront le lien pour pouvoir justement s'inscrire à cette marche ou à cette course et recevoir leur dossard. Mais en tout cas, merci de nous avoir partagé votre passion et votre mission au travers votre association qui est donc une ONG accréditée aujourd'hui. Merci Charlotte et j'espère qu'on vous retrouve bientôt sur les réseaux ou sur le devant de la scène pour nous parler justement de tous vos projets.
Merci beaucoup à vous. C'était un plaisir à la fois de pouvoir discuter et de pouvoir diffuser le plus largement possible nos valeurs, parce que oui, la diversité culturelle, c'est une force.
Merci Charlotte et à bientôt.
Au revoir.
Cet épisode de podcast est terminé. Je vous invite, s'il vous a plu, à mettre 5 étoiles sur le canal de podcast sur lequel vous l'avez écouté. Et à vous abonner, évidemment, au podcast Balance ton héroïne en cliquant sur la cloche tout là-haut, là-haut. Voilà, donc je suis Géraldine Jakowski et je vous retrouve très prochainement pour un nouvel épisode de Balance ton héroïne.